le 6-9 de l'été sur France Inter.
Allez, prenez votre élan maintenant, on part dans l'espace avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un spécialiste des trous noirs supermassifs, mais aujourd'hui on veut que vous soyez super clair, comme vous l'êtes hein, toute la semaine dans votre chronique à 8h55. On célèbre cette année les 50 ans d'Apollo 11, du premier pas de l'homme sur la Lune. Un demi-siècle plus tard, Jean-Pierre Luminet, est-ce que l'appétit de l'humanité à conquérir l'espace est toujours le même ?
Oui, en tout cas un regain, c'est-à-dire que après l'émission Apollo 11, il y a eu un petit peu une chute de l'intérêt du public une fois qu'on avait conquis entre guillemets la Lune, même si on ne conquérait pas vraiment les objets célestes, mais on avait posé le pied dessus. La Lune est un petit peu démystifié d'une certaine façon, et bah, le public est versatile aussi. Donc une fois que cet exploit avait été réalisé, l'intérêt est un petit peu tombé, à la fois dans le public, mais également du côté des financements, parce que, rappelons-nous, c'était en pleine guerre du Vietnam également, il y avait les budgets du programme Apollo étaient relativement colossaux pour la NASA, et donc la NASA s'est vue restreindre considérablement ses budgets, et de revoir un petit peu à la baisse également ses ambitions. C'est vrai que, juste après l'émission Apollo, tout de suite la NASA a dit, mais la prochaine étape c'est Mars, évidemment. Un petit enthousiasme qui n'a pas duré très longtemps, parce que quand on a commencé à évaluer le coût exorbitant d'une mission sur Mars, l'intérêt est retombé. Mais aujourd'hui, depuis quelques années,
ça repart
à la fois à travers les agences spatiales, mais aussi, et ça c'est tout à fait nouveau par rapport à cette époque, avec des investisseurs privés, des très riches, voilà.
On va en reparler. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la guerre froide. Hein. Ce sont d'autres enjeux et d'autres acteurs. Il y a les pays émergeants aussi qui veulent conquérir l'espace.
Tout à fait. Le contexte également a considérablement changé, puisque comme vous l'avez mentionné, les missions Apollo se sont faites dans le cadre de la guerre froide, cette rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, heureusement, donc la guerre froide terminée, il y a maintenant des rivalités de prestige
avec la
Chine notamment, ouais, puisque la Chine devient un acteur majeur et va probablement, à mon avis, devenir le premier acteur avant même les États-Unis dans la prochaine décennie. Donc il y a à nouveau cette rivalité un petit peu géopolitique qui finalement, ça permet de financer des missions à caractère tout de même et objectif de la connaissance scientifique que peut-être on n'aurait pas d'autres moyens de financer.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un réel intérêt scientifique ou alors c'est de l'hubris, c'est ces grandes nations, ces grands hommes qui
veulent
absolument...
C'est un mélange des deux. Alors il y a évidemment un intérêt scientifique, beaucoup, plusieurs intérêts scientifiques. Alors ça dépend de quoi l'on parle, parce qu'il y a à la fois les missions sur Mars, puisqu'on vient de parler sur Mars, c'est évidemment l'objectif scientifique majeur, c'est d'essayer de trouver s'il y a eu réellement une vie sur Mars, dans le passé martien, à la recherche donc d'éventuelles bactéries fossiles. Ce serait une immense nouvelle, même si elle est attendue relativement sereinement par beaucoup de scientifiques, mais rien n'est garanti. Donc il y a un enjeu scientifique majeur derrière. Au-delà de Mars, après, il y a tout l'enjeu de l'exploration du système solaire, avec les innombrables projets spatiaux, qui sont plus que des projets, donc des missions en cours ou projetées à relativement court terme, pour aller explorer tous ces astres extraordinaires du système solaire, entre les planètes lointaines, les satellites glacés qui gravitent autour de Jupiter et de Saturne, sous lesquels on soupçonne qu'il y a peut-être des bactéries dans les océans subglaciaires, sous des couches de glace, et des bactéries qui ne seraient pas fossiles. Ce serait encore plus étonnant et plus intéressant que Mars. Donc il y a évidemment des enjeux scientifiques majeurs. Il y a aussi des enjeux économiques, figurez-vous, puisqu'on songe de plus en plus, et ça on n'y songeait pas du tout à l'époque des missions Apollo, bien entendu, on songe à l'exploitation des ressources naturel du système solaire à travers les matériaux et les minerais qui se trouvent en abondance dans les astéroïdes, sur les astéroïdes, pas tellement sur Mars, mais dans les astéroïdes et également dans la poussière lunaire. Donc il y a des projets très très sérieux, y compris donc avec des compagnies privées, parce que sur Terre, certains éléments très précieux dont on a besoin, mais qui sont très rares, le tungstène, le cobalt, le platine, les terres rares, etc., s'épuisent à la surface de la Terre, ça devient de plus en plus coûteux de les extraire. Et sur les astéroïdes, ceux qui ne sont pas trop loin, ceux qui ne sont pas au-delà de Mars, parce que ça c'est des grosses missions, mais ceux qui passent relativement près de la Terre, qu'on appelle des géocroiseurs, qui ne présentent aucun danger de collision, mais donc ce sont effectivement des mines volantes à exploiter par des missions de courte durée, qui pourraient effectivement ramener ces matériaux terrestres.
Alors, vous l'évoquiez, il y a des nouveaux acteurs, des acteurs privés, par exemple Elon Musk et SpaceX. Ça pose deux questions. D'abord, la privatisation de la conquête spatiale. Est-ce que c'est une bonne chose de laisser ça à des acteurs privés et puis aux États?
Bien, disons qu'il faut surveiller, l'évolution des choses. Alors, je concentre que, notamment l'une des 40 chroniques à cette question très importante. À qui appartient l'espace, finalement?
C'est ça, c'est la deuxième question.
Il y a une convention qui avait été passée à l'Organisation des Nations Unies à la fin des années 1960, vers la fin évidemment de programme. Donc, d'une certaine façon, les objets du système solaire, ça n'appartenait à personne, c'était le patrimoine commun au bénéfice de l'humanité. Après, vous savez, dès qu'il y a des enjeux économiques et commerciaux, dès qu'on a commencé à réaliser le potentiel économique extraordinaire qu'il peut y avoir, l'idée, c'est premier arrivé, premier servi. Et le président Obama est le premier à avoir modifié la charte internationale au bénéfice des futures entreprises américaines qui iraient là-bas. Et je pense que c'est comme ça, malheureusement, que ça va se passer. Donc, il faut quand même surveiller ça. Et il faut établir un cadre juridique qui n'existe pas encore.
Oui, parce qu'Elon Musk, par exemple, il veut coloniser Mars, et là, ça pose aucune question éthique, quoi. Mars
pour
pourrait nous appartenir.
Oui, mais cela dit, il y a aussi chez Elon Musk, c'est un entrepreneur de génie qui a fait des choses extraordinaires avec ses grandes fusées, ses grands lanceurs. En revanche, je crois que ses projets de colonisation martienne, ce sont des effets d'annonce qui lui permettent de récolter beaucoup de budget et d'avoir une image, justement, d'investisseur génial. Mais je crois qu'on en est encore extraordinairement loin, les histoires de colonisation martienne. L'homme n'est pas fait du tout pour cela et il faudra de nombreuses décennies avant que déjà un seul homme puisse poser le pied sur Mars, sans parler évidemment d'établir des bases vivables.
Jean-Pierre Luminet, vous êtes astrophysicien. Qu'est-ce que c'est la consécration pour un astrophysicien? Est-ce que c'est d'avoir, par exemple, sa planète à son nom, comme vous l'avez, vous?
Non.
La petite planète, c'est la numéro 5523.
Oui, non, mais nous sommes un certain nombre à les avoir. Non, c'est pas une consécration. C'est simplement, oui, ça fait plaisir, évidemment. Parce que ça veut dire que la communauté astronomique qui est chargée de la nomenclature des objets célestes rend hommage à certains travaux qui n'ont rien à voir avec les astéroïdes, mes travaux sur les trous noirs, le Big Bang, évidemment. Bien, voilà.
En revanche, c'est vrai que
la concrétisation de ce travail que j'ai fait tout jeune chercheur, il y a un peu plus de 40 ans, où j'avais fait la première simulation.
Oui, la première
c'est ce
image.
Que je voulais dire. Oui, donc,
en avril,
donc,
là, on a
fait
eu la
première simulation
image
numérique
du
de à quoi ressemblerait un trou noir entouré d'un disque de gaz chaud. Et 41 ans plus tard, on a une image précisément d'un trou noir supermassif.
Ça donc, confirme votre simulation.
Donc c'est vrai que c'est on va dire que c'est une cerise sur le gâteau. Bon, on peut appeler ça une consécration. Non, vous savez, j'ai fait d'autres travaux entre-temps. Hein.
Oui, mais quand même,
qui se sont aussi.
Parce que le trou noir, c'est un objet
fantasmatique
fascinant
dans l'esprit du public, si vous voulez. Je veux dire, j'ai fait d'autres prédictions astronomiques, au moins aussi intéressantes, je pense, mais peut-être un peu moins spectaculaires, parce que le trou noir, je l'ai dit, c'est le parangon de l'invisibilité. Donc, quelque part, il y a un oxymore extraordinaire à dire « on a vu ». Un trou noir, mais comment c'est possible? Le trou noir, c'est par définition l'objet invisible. Voilà. Donc forcément,
vide,
ça fascine le public, les médias, ça s'en donnait à cœur joie. Donc moi, évidemment, j'étais ravi de cela et de voir effectivement cette couronne lumineuse autour de cet œil sombre qui ressemble évidemment à ce que j'avais calculé parce que c'est normal, j'avais utilisé correctement les équations de la relativité générale. Donc c'est pas surprenant que ça confirme cette image-là, mais ça fait plaisir, effectivement.
On aime aussi votre travail, Jean-Pierre Luminet, parce que vous êtes à la frontière entre la science et la poésie. Vous êtes romancier aussi. Vous racontez, vous vulgarisez à travers des images.
Non, mais pour moi, la passation des savoirs est quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Après, de par ma nature même, je suis vraiment très pluridisciplinaire. Je ne peux pas me cantonner à une seule façon de voir et de penser le monde. Donc, la science astrophysique que je pratique avec un grand bonheur, c'est formidable, mais ça ne dit pas tout sur le monde. Donc, l'approche artistique, j'y tiens énormément. Donc, je pratique depuis ma plus prime jeunesse, bien avant de faire de l'astrophysique, je pratique divers arts, le piano, la musique, la peinture, la gravure, etc. Voilà, et j'ai toujours continué en parallèle à ça. Et je pense qu'en fait, cette approche finalement esthétique du monde qui nous entoure, ça enrichit l'imaginaire dont on a besoin pour faire également de la création scientifique. Parce que quand on est un physicien théoricien comme moi je ne suis pas astronome, je ne fais pas d'observation, j'invente, je propose des idées, j'invente des modèles, etc. Donc il faut une part d'imaginaire qui est assez importante. Après, développer, évidemment, c'est les idées intuitives que l'on a en des modèles scientifiques.
La chronique de l'espace, c'est tous les jours de la semaine à 8h55, tout l'été, en podcast et sur France Inter. Merci beaucoup, Jean-Pierre Luminet.
Merci à vous.